Et pour ta part, Victor, au sein du mouvement, t'es arrivé à quel moment?
Moi, j'ai participé à la première manif, celle du 17 novembre, mais un petit peu par hasard, en fait, hein, parce que j'avais entendu les appels, justement, à manifester. Et la plupart des appels, à l'époque, quand même, qui circulaient sur les réseaux sociaux, c'était quand même des appels qui étaient relayés plutôt par des milieux proches de l'extrême droite.
Tout à fait,
donc,
ouais.
Bon, j'étais quand même assez frileux, en fait. Mais bon, en les entendant défiler au niveau de la mairie, tout ça, donc je suis allé faire un tour, en fait. Par curiosité, hein, parce que bon, bah voilà, des gens qui descendent de manière spontanée quand même dans la rue, c'est pas tous les jours qu'il y en a, en fait, hein, dans ce pays. Et donc j'étais agréablement surpris dès le départ, en fait. C'est-à-dire que la plupart des discussions que j'ai eues tout azimut dans cette manifestation, c'était des personnes avec qui je partageais un certain nombre de points de vue sur la société en général. Et contrairement à l'image que pouvait donner le mouvement dès le départ et qui a provoqué une certaine frilosité chez pas mal de militants, hein, je ne le cache pas, moi je suis militant aussi de longue date, en pensant que c'était un mouvement d'extrême droite, ce n'était pas du tout le cas, quoi, en fait. C'est-à-dire que dans toutes les premières discussions, si j'ai eu dans les premiers mois une ou deux personnes qui me tenaient des propos racistes, homophobes, bien souvent c'était pas forcément des militants d'extrême droite, c'est des gens plutôt qui subissent la propagande raciste ou autre déversée par les médias, hein, déjà d'une part de ce point de vue là mais non comme je disais, lors de cette première manifestation, des personnes qui se rendaient bien compte que le vrai problème dans cette société là c'est les grandes fortunes qui s'accaparent toutes les richesses qui sont produites pendant qu'un certain nombre, bah, eux, crèvent dans la misère, en fait. Comme disait Magali, oui, effectivement, c'était le 17 novembre une révolte de la misère, hein, contre les grandes fortunes, et c'est comme ça qu'il faut le prendre, c'est-à-dire une lutte de classe, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une des parties, hein, je dis pas la partie, mais une des parties les plus exploitées, les plus opprimées du pays, hein, relever la tête, justement, sortir, commencer à manifester et commencer à s'organiser. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, quand même. Hein. Donc, un peu, comme je tiendrai là-dessus, ça m'a fait penser tout de suite, alors dans un autre sens, parce que c'est pas dans les entreprises que ça s'est passé, mais en 1936, lorsqu'il y a eu le mouvement de grève générale, c'est parti aussi de secteurs qui étaient non syndiqués, en fait, hein, et qui étaient parmi les plus précaires. Donc, du coup, c'est ça qui m'a fait dire qu'on était face à un mouvement qui n'était pas anodin et qui sortait justement des sentiers battus de toutes les luttes qu'on a pu connaître ces dernières années et même la lutte contre la loi travail, en fait.
Oui, puisqu'il a mis une grande claque un peu à tout le... Enfin, tous les milieux, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'ultra gauche, ça a été effectivement cette capacité à s'auto-organiser sur des gens qui avaient été rarement vus sur des mobilisations plus... purement politique ou purement syndical, où la longévité du mouvement et la capacité à vraiment à s'approprier des pratiques, occuper un rond-point, faire de la logistique pour se nourrir, pour se loger, pour fabriquer quelque chose, ça a été assez formidable. Sachant quand même au niveau des manifestations à Poitiers, il y a quand même eu quand même beaucoup de monde quand même si on compare quand même sur un mouvement qui n'était pas porté par les partis ou les syndicats, il y a quand même eu un certain nombre de manifestations avec du monde, quoi, derrière. Dans le cadre de que ce soit la manifestation qui a été interdite en mars,
oui.
Je me souviens plus. Y a quand même eu, un suivi derrière de la part des gens mobilisés, qui est pas négligeable. De même, à Châtellerault aussi, il y a quand même eu un certain nombre de mobilisations. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des liens entre un petit peu les gilets jaunes de Poitiers, de Châtellerault? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des liens dans le cadre du mouvement? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça?
Oui, parce que Châtellerault est venu justement pour la manifestation, la grande mascarade du mois de mars. Châtellerault est venu à Poitiers. Et Poitiers est allé à Châtellerault le 2 mars aussi pour leur carnaval. Donc on est allé chez eux, ils sont venus ici. On a lutté ensemble, oui. Et on est en lien.
Enfin, même avant ça, ils étaient venus à une manifestation au mois de janvier sur Poitiers. Après, on a participé à différents événements, hein, que ce soit des manifs ou des rassemblements, notamment des blocages sur La Rochelle, hein, par deux fois, avec justement les Gilets jaunes de La Rochelle, où on a bloqué à la fois le port de commerce et les raffineries. Hein. Donc une fois avec les raffineurs et une fois sans les raffineurs. Bon, donc après, en termes de coordination, on essaie de se coordonner aussi avec le reste des Gilets jaunes de France en participant à la première assemblée des assemblées qui s'est tenue au mois de janvier à Commercy, hein, où on avait envoyé justement une délégation de l'Assemblée de Poitiers pour pouvoir justement commencer à prendre contact avec les autres gilets jaunes et commencer à coordonner notre action. Donc après, par contre, on regrette le fait de ne pas avoir pu participer aux deux dernières, hein, c'est-à-dire celle de Saint-Nazaire et celle de Monceau-les-Mines.
On y reviendra effectivement sur les AG, mais que le...
En tout cas, on a toujours eu le souci d'essayer de se coordonner avec d'autres et d'essayer de faire des choses avec d'autres, même si ça n'a pas été simple.
Effectivement. Sur la question de un petit peu de, parce que là on parle de mouvement social, donc de répression. Comment est-ce que voilà au sein des Gilets jaunes la répression a été vécue? Est-ce que vous avez quelque chose à en dire par rapport à est-ce que les gens ont découvert une répression qui jusque là ils ignoraient? Comment un petit peu qu'est-ce qu'on peut en dire un petit peu de ce côté-là?
Oui, nous on a découvert la répression à la manif du 19 janvier. C'était la marche. C'était quelle la marche ? C'était pour la justice sociale. Voilà. Ouais. Là, voilà. Et en fait, tout Poitiers était bouclé. Ils arrêtaient les voitures. Les flics arrêtaient les voitures. On était fouillés. Il y a des gens qui ont été empêchés d'arriver sur la place. Voilà, ça a été déjà un dispositif policier important où on a empêché les gens de venir manifester déjà. Après, on ne savait pas si on allait pouvoir sortir du centre-ville. Donc, du coup, on était beaucoup moins nombreux qu'on aurait dû être, hein, parce qu'il y a des gens qui ont été bloqués à Neuville. Enfin, voilà. Et ensuite, quand on a, en fin de manifestation, on s'est retrouvé avec un cordon de CRS, avec l'impossibilité de retourner au centre-ville où on était garé. Avec des gaz, lacrymogènes, enfin. Et au rond-point, quand on était le samedi en rond-point, tous les samedis à 17h, on était gazés. 17-18h, on était gazés. Alors à Poitiers, il n'y a pas eu de briseur de... On n'a pas brisé les vitrines. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas... C'est eux qui ont commencé à nous gazer, à nous réprimer. Il y a eu... On a eu une gilet jaune... Une enfant de gilet jaune qui a eu le pied cassé lors d'une manifestation au niveau du rond-point aussi, hein, 15 ans. Hein. Ils l'ont traîné par terre, ils étaient 6 CRS, ils l'ont traîné par terre, ils lui ont cassé le pied, bravo. Hein. Bravo à vous, hein, merci. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore comme...
Bon, il y a eu, après, on pourrait remonter dans la presse, effectivement, les différentes arrestations.
Oui, sans faire le catalogue de toute la répression qu'a subi le mouvement, je pense que quand même, il y a un point à noter, c'est que dans la tête de beaucoup de gilets jaunes, lorsqu'ils ont commencé le mouvement, il n'y avait pas de sentiment anti-flic, en réalité, pour la plupart, parce qu'ils n'avaient jamais été confrontés, puisqu'ils ne manifestaient pas, justement. Pour beaucoup, c'était leur première manifestation, leur premier mouvement, donc ils n'avaient jamais été confrontés, pour la plupart, quand même, à la répression policière, qu'on a pu connaître notamment pendant la loi travail ou sur d'autres mouvements de grève. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient énormément d'illusions en réalité dans la police et qui voyaient la police comme quelqu'un étant censé les protéger en fait. Et ils se sont rendus compte que très rapidement en réalité, les policiers ne les protégeaient pas. Et je pense que l'immense majorité des gilets jaunes ont bien compris qu'au mois de décembre, si le gouvernement Macron est resté en place, c'est uniquement parce que la police était là. Il n'y aurait pas eu la police... Ou si on était redescendu dès le lendemain matin, hein, c'est-à-dire pas faire tous les samedis, peut-être que le gouvernement Macron aujourd'hui, il serait tombé. Il aurait peut-être été obligé de démissionner comme Bouteflika en fait.
Et rappelons qu'en janvier, il y a eu une augmentation de la part des... Enfin, les policiers ont eu à faire un mouvement beaucoup plus court de protestation pour obtenir une augmentation de salaire.
Et donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes qui sont revenus justement de la police, hein, qui n'ont plus du tout aucune illusion sur ce que représente cet appareil de répression, qui n'est pas là, bien entendu, pour nous protéger de quoi que ce soit. Hein. On ne les voit jamais venir nous défendre lorsqu'on est licencié, lorsqu'on supprime des postes, quand on ferme des écoles. On pourrait citer ça en pagaille. Par contre, oui, ils sont là pour arrêter des femmes et des enfants qui cherchent à fuir la guerre. Ils sont là pour matraquer des gamines de 15 ans parce qu'ils ne sont pas d'accord avec, par exemple, les réformes dans l'éducation nationale. Ils sont là pour matraquer des pères et des mères de famille qui n'arrivent pas à donner à manger à leurs enfants à partir du 15 du mois. Oui, là, par contre, nous avons une bande de petits fachos. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Hein, c'est le bras armé de l'État. C'est le bras armé des grandes fortunes. C'est le bras armé aujourd'hui de Macron, mais de n'importe quel président demain, hein, qui, lorsqu'il devra faire face à la population, n'hésitera pas justement à faire sortir ses chiens de garde, parce que ce n'est rien d'autre que ça. Hein, c'est une bande d'hommes en armes, hein, qui est prêt pour la plupart, alors je ne parle pas bien sûr du petit pourcent ici ou là, qui lui peut peut-être avoir une conscience politique, sociale, mais bon, pour l'immense majorité, quand même, je pense qu'il vendrait père et mère, si ce n'est pas les tuer, justement, pour pouvoir sentir ce petit pouvoir qui, à mon avis, excusez-moi le terme, hein, c'est être un peu sexiste, mais qui les fait bander, hein, parce que c'est quand même pas mal de mecs. Et il faut rappeler quand même que dans cette police-là, l'immense majorité vote quand même à droite, et extrême droite. C'est-à-dire plus de 80% du corps de la police vote pour des réactionnaires, en fait, qui ont toujours eu à cœur quand même de s'en prendre au peuple.
Alors, pour revenir un peu sur la manière dont le mouvement s'est déroulé aussi, au tout début du mouvement, on a plutôt eu une phase statique où les gens occupaient les ronds-points, bon, il y avait des manifestations. Et à partir de février-mars, il y a eu un peu une inflexion où certains parleront peut-être de jonction, de convergence des luttes, avec en fait d'autres mouvements, d'autres luttes qui n'étaient pas forcément proprement sur les gilets jaunes. On peut penser par exemple à l'hôpital du Blanc où il y a eu des choses là-dessus. Comment un petit peu expliquer ce changement de direction, ces choses-là ?
C'est pas du tout un changement de direction parce que dès le début, on était pour la défense des services publics. Hein. On s'est positionné tout de suite pour la défense de l'hôpital. On avait déjà diffusé des tracts justement où on disait que quand les profs se mobilisaient contre la réforme Blanquer, ben, en tant que parents, on était concernés. Quand les hospitaliers se mobilisent pour des conditions de travail, en tant que patients, on est concernés parce que la souffrance de ces hospitaliers, ça donne aussi des malades mal soignés, hein, il faut le savoir. Donc en fait, on avait décidé qu'on serait derrière chaque salarié en lutte parce que dans les gilets jaunes, c'est la convergence des luttes. On a déjà des retraités, on a des étudiants, on a des lycéens, on a des hospitaliers, on a des profs, on a toutes les classes sociales et à peu près, voilà, tout le monde est représenté. Et on disait que justement, il fallait arrêter de faire des luttes séparées où tout d'un coup les profs descendent tout seuls dans leur coin, où les hospitaliers descendent tout seuls dans leur coin, il faudrait qu'on descende tous ensemble et que quand les profs se mobilisent, on soit tous ensemble avec eux et quand les hospitaliers se mobilisent. Parce que c'est ça la convergence des luttes. Et donc, il n'y avait pas du tout d'étonnement à ce qu'on se retrouve dans les manifestations pour défendre la fonction publique, puisque c'est aussi ce qu'on défend.
Oui, ce qui d'ailleurs a été assez... la manifestation de février ou mars devant la mairie a été assez cocasse, puisque une partie de la manifestation ayant envahi la mairie, la CGT n'avait visiblement qu'une envie, c'était de partir. Enfin, ça a donné
trop
lieu
respectueuse des institutions de la République, à mon avis.
Et puis oui, une espèce de position assez particulière, ou un mouvement sur lequel ils étaient très sceptiques au départ. Enfin, sur cette manif-là, on en avait parlé, nous, dans l'émission, c'était assez...
Excuse-moi, je te coupe, la CGT n'était pas sceptique. La CGT, dès le départ, par la bouche de Martinez, a quand même repris les propos de Macron contre les gilets jaunes, c'est-à-dire la calomnier en fait. La calomnier, l'a descendue, a tout fait justement pour qu'il n'y ait pas de jonction entre les salariés et les gilets jaunes. C'est-à-dire, je parlais des flics tout à l'heure, mais je pense que l'appareil CGT a une responsabilité aussi dans le fait de l'échec du mouvement et dans le fait que Macron est resté au pouvoir.
Tout à fait. Et d'ailleurs, enfin, à cette manifestation, il y avait un certain nombre de gilets jaunes. Enfin, c'était pourtant une manif dite syndicale, mais est-ce que c'était des gens de la CGT qui avaient décidé de remettre leurs gilets jaunes ou de mettre leur...
On a chez nous des gens syndiqués, hein, et qui descendent dans la rue en gilet jaune.
Ça a été assez, enfin, ça a été un moment assez assez notable. Quelles ont été un petit peu les dernières actions là qui ont été, parce que c'est vrai que, bon, pareil, la phase de manifestation, ce genre de choses a été un petit peu, bon, c'est le mouvement n'est pas mort, mais tout du moins qu'il est rentré dans une phase peut-être un petit peu plus de recul. Quelles ont été un petit peu... Est-ce qu'il y a de nouvelles actions qui ont essayé de se mettre en place pour à la fois continuer à mobiliser et toucher les gens? Qu'est-ce qui a été mis en place de ce côté-là par les gilets jaunes?
Récemment?
Oui. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des blocages, choses comme ça? Quelles ont été d'autres formes de mobilisation?
La dernière action qu'on avait fait, c'était un filtrage d'une station essence. Ben, au moment où les gilets jaunes avaient appelé à bloquer, nous, on avait fait un filtrage au cours duquel on distribuait des tracts qui expliquaient pourquoi on était encore dans la rue et ce qu'on défendait, et essayer d'aller à la rencontre des gens et discuter avec eux. Et il y a eu aussi une opération péage gratuit récemment sur l'autoroute.
Et quel a été l'accueil du public? Parce que au départ, enfin, sur les ronds-points, il y avait quand même beaucoup de klaxons. Enfin, il y avait quand même une certaine solidarité de la part de, même une grande solidarité, on peut dire, de la part de gens qui passaient. Est-ce que l'accueil à l'heure actuelle est toujours aussi positif?
Oui, les gens discutent avec nous. On n'est pas des affreux criminels, hein, comme on... Non, ça se passe bien.
Non, on n'a pas ressenti de rejet particulier aujourd'hui ou un revirement dans l'état d'esprit des personnes. Au contraire, même il y a quelques semaines, j'étais même étonné d'entendre à nouveau les klaxons revenir. Mais parce que justement, les policiers n'étaient pas là. Donc du coup, bah, ils se permettaient, parce que tous ceux qui klaxonnaient aux alentours du rond-point d'Auchan se prenaient des prunes quand même.
Oui. Oui,
donc, du coup, on pouvait penser à un moment donné que du coup, moins de klaxons, moins de soutien, mais c'était pas le cas. Parce que dès le départ, quand même, ils ont quand même développé un arsenal répressif à tous les niveaux, quoi, en fait. Hein.
Oui,
puis en même plus, contre c'est... ceux qui nous apportaient un soutien. C'est-à-dire ceux qui venaient déposer des palettes, et ben, ils venaient les arrêter parce qu'ils venaient déposer des palettes quand même. Et ils leur mettaient des prunes, hein, voilà, parce qu'ils déposaient des palettes sur le rond-point. Donc le moindre geste de solidarité était pourchassé. Ça, il faut l'avoir en tête. Il y en a beaucoup qui ne s'en rendent peut-être pas compte, parce qu'ils n'y étaient pas, mais c'est quand même ça, quoi, en fait.
Puis on n'a pas parlé aussi des gardes à vue abusives. Hein, les gilets jaunes arrêtés le samedi pour entrave à la circulation, alors qu'ils étaient en manifestation et qu'ils étaient quand même... On était à peu plus de 90. Et il y en a deux qui se sont retrouvés en garde à vue, puis convoqués au tribunal pour être jugés dès le lundi. Ça va vite, hein, dans ce cas-là.
Immédiate, oui.
Comparution immédiate pour les gilets jaunes. Là, on n'attend pas. Hein. Et on avait d'ailleurs un instituteur avec nous qui ils l'ont brisé. Ces 48 heures de garde à vue l'ont brisé. Il ne revient plus. Et il y a beaucoup de gens qui ne reviennent plus parce qu'ils ont peur de se retrouver en garde à vue. Ils ont été arrêtés, ils sortaient du Auchan, ils n'étaient même plus dans la manif. Voilà. Il y a... Je pense que ça a joué aussi sur le fait que les gens ont eu peur.
Se sont mis en retrait, se sont protégés.
Oui.
Ok, et bien voilà pour le premier point un petit peu sur le... comment le mouvement s'est développé depuis le début. On va faire une pause musicale dont seul le titre sera en lien, puisque c'est Yellow Submarine des Beatles. Ça nous changera peut-être des chansons un petit peu plus vénères qu'on a l'habitude de passer. Mais en tout cas, on va s'écouter ça avant de passer à la deuxième partie sur l'Assemblée, donc tout le mouvement d'Assemblée qui s'est mis en place dans le cadre du mouvement Gilets jaunes. Mais on parlera de ça après la pause musicale.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green. Yeah.
De retour sur Fracture après cette pause musicale, donc les Beatles, Yellow Submarine. On va donc continuer sur les Gilets jaunes en parlant ce coup-ci de l'Assemblée et donc un petit peu de ce mouvement assembléiste qui s'est mis en place au sein du mouvement des Gilets jaunes. Donc à Poitiers, l'AG, depuis quand elle existe, Magali, Victor?
Depuis le mois de décembre, le 26 décembre, on avait fait notre première AG à Mignozance, dans une bergerie. Voilà, c'était super. Et ensuite, tous les vendredis, on a continué à faire des AG à l'auberge de jeunesse de Buxerolles.
Non, pas de Buxerolles.
De Belle-Joanne.
De Belle-Joanne.
À Poitiers Sud.
De Belle-Joanne à Poitiers Sud. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu d'autres lieux qui ont été qui ont accueilli cet AG au fil du mouvement?
On en a fait quelques-unes aussi au Salon de Blossac, mais très peu. Deux. Et puis dernièrement, on les faisait aussi à l'île Tison, sur l'île Tison, en plein air. Voilà.
Mais okay. Sinon, jusqu'à maintenant, elles se sont tenues, en général, c'était à l'auberge de jeunesse. Hein.
Ok. Et donc là, ça fonctionnait comment? La salle vous était prêtée? Comment ça fonctionnait?
Non, la salle n'était pas prêtée, on l'a louée, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on se cotisait chaque soir, justement, on faisait une caisse de soutien, hein, où chacun mettait ce qu'il pouvait, justement, pour pouvoir payer la salle, en fait.
Donc cet AG, quel a été son fonctionnement, son rôle? Pourquoi créer une AG? Est-ce que ça a été une initiative locale? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres AG dans toute la France? Comment est-ce qu'on peut un petit peu faire la généalogie de cet AG?
Déjà au niveau national, il y a eu des assemblées un petit peu partout, en fait, hein, pas uniquement sur Poitiers. Après, sur Poitiers, l'assemblée de nécessité à partir du moment où les ronds-points ont été vidés, quoi, en fait. Parce qu'en réalité, au début, c'était sur les ronds-points que ça discutait.
L'AG était sur les ronds-points.
Parce qu'on se réunissait tous sur les ronds-points, 24 heures sur 24, pas la même personne, bien sûr, mais je veux dire, c'était occupé continuellement, 24 heures sur 24, quasiment, les gens passaient, s'arrêtaient, buvaient un café, discutaient. C'était un lieu d'échange permanent, une sorte d'assemblée en permanence. Bon, et très rapidement, justement, comme c'était un lieu d'organisation, et puis on l'a vu même à la télé, hein, ça a été montré, certains endroits, c'était quasiment des petites ZAD quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait toute une vie qui commençait à s'organiser. Et les gens vivaient sur place.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que c'était un mouvement qui commençait à s'ancrer, en fait. Et là-dessus, je pense que le gouvernement ne s'y est pas trompé. Et ce n'est pas pour rien, justement, qu'il a fait en sorte qu'il n'y ait plus personne sur les ronds-points. Parce que, justement, la forme du rond-point, la manière dont ça s'organisait, ça correspondait, je pense, quand même aux besoins, en fait, de personnes qui n'étaient pas habituées aux assemblées. L'assemblée, pour moi, ça a été un pis-aller, en fait.
Pis-aller, c'est-à-dire
que... C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'autre choix. Mm-hmm. À partir du moment où on ne pouvait plus se réunir sur les ronds-points, où on ne pouvait plus, à la rigueur, essayer de coordonner les différents ronds-points avec des délégués de ronds-points, ce qui aurait été intéressant d'avoir des délégués de ronds-points, que chaque rond-point élise des personnes révocables, pour pouvoir se coordonner entre différents ronds-points. Mais à partir de ce moment-là, bien sûr, il n'y a plus d'occupation. On a cherché un autre lieu où se réunir. Sauf que la forme assemblée, c'est une forme quand même qui est assez particulière et qui ne correspondait pas forcément à tout le monde. Et puis, beaucoup ont eu l'impression, je pense, de tomber dans un... qu'on appelle ça, dans quelque chose de très politique, etc. Alors que le but de l'assemblée, c'était quand même de permettre au plus grand nombre de se réunir pour pouvoir discuter le plus largement possible, d'échanger les uns avec les autres sur nos points de vue, parce qu'on ne se connaissait pas la plupart, et puis essayer de trouver des terrains d'entente pour pouvoir agir et intervenir par la suite.
Alors comment elle fonctionne cette assemblée à l'heure actuelle, ou si elle fonctionne d'ailleurs toujours, comment elle fonctionne?
Au départ, quand on a commencé à faire des votes, enfin à inviter les gens à s'exprimer, en disant ce qu'ils voulaient comme revendication, de quelle manière ils voulaient que fonctionne cette assemblée, etc. Donc est ressorti toutes les revendications sociales qu'on a pu entendre, hein, il y en a eu énormément, mais aussi qu'ils ne voulaient pas de chef, qu'ils ne voulaient pas de porte-parole, qu'ils ne voulaient pas... Et que on fonctionnerait par délégation révocable, démandatée révocable, etc. Donc c'était aussi pour mettre en place la façon dont tout voulait fonctionner. Et sur quoi on allait se battre, etc. Et donc, il y a eu beaucoup, justement, de revendications sociales, pas du tout de revendications concernant l'immigration, hein, comme on a pu l'entendre, etc. On n'en a pas eu. Et voilà.
Ok, d'accord. Pardon, j'ai coupé mon, micro. Pardon, j'ai cru que tu avais fini.
Et puis après, très rapidement, on a mis en place des commissions. Commission action, manifestation, communication, logistique, juridique.
Après, ça fonctionnait plus ou moins bien. Parce que après, la plupart des personnes, comme on le disait tout à l'heure, c'est des personnes qui s'organisaient pour la première fois, manifestaient pour les premières fois. Donc, quand on n'a jamais organisé une manif ou une action ou un rassemblement, ça ne s'invente pas, quoi, en fait. Ce n'est pas simple. Donc, bien sûr, avec pas mal de fonctionnement un peu chaotique, mais ce qui est normal, à partir d'un mouvement spontané, donc des choses qui nous ont été reprochées par beaucoup de gens. Par exemple, les Gilets jaunes, vous n'organisez pas assez vite, mais bien sûr, toujours des gens plutôt extérieurs, quand même, qui ne sont pas partie prenante du mouvement et puis qui viennent nous faire la morale. Ça, c'est ceux que je préfère, généralement. C'est-à-dire, ils ne mettent pas la main à la pâte, puis après, ils viennent, ils ont bien sûr les bonnes solutions, mais quand il faut les appliquer, ils ne sont pas là. Puis après, bien sûr, il y avait aussi les critiques en interne sur le fonctionnement, parce que c'était quand même pas simple, avec beaucoup d'attentes pour certains, des fois peut-être trop d'attentes, voulant que ça aille trop vite, parce qu'après on fait aussi avec ce que sont les gens qui luttent, avec leur conception, leur perception des choses, et des fois on peut pas aller plus vite que la musique, donc bien sûr des fois avec, comme je disais, des choses un peu chaotiques qui fonctionnent pas, qui foirent, bon bah c'est comme ça, ça arrive, et bon, je pense que quand même ça a été une bonne école de la lutte, cette assemblée, dans le sens où ça a permis quand même à pas mal de personnes de pouvoir, pour la première fois, échanger publiquement sur un certain nombre de problèmes et puis se rendre compte que ils n'étaient pas tout seuls, quand même, à pouvoir penser telle ou telle chose, qu'ils pouvaient partager tel point de vue avec d'autres. Donc ça a quand même été, je pense, une bonne école de formation pour pas mal, quoi, en fait.
Et est-ce que l'AG ne faisait vraiment qu'avoir un rôle... Alors délibératif, peut-être pas le mot, mais vraiment, enfin, se concentrer uniquement sur son propre fonctionnement et les actions. Ou est-ce que il y a eu des temps de discussion, des temps autres pour aller un peu plus loin que la thématique tout de suite des gilets jaunes, de genre de choses. Est-ce que ça a été un petit peu plus pas ouvert, mais disons tout du moins un petit peu plus.
Au départ, l'AG, elle se constituait. Donc, en fait, on est resté sur le comment on se constitue. Donc, c'est vrai que les débats ont été un petit peu écartés. C'est peut-être ça aussi qui a fait que les gens n'étaient pas intéressés. Il fallait qu'on se constitue et de quelle manière. Donc, ça portait beaucoup là-dessus. Mais on a quand même proposé des tracts. Tous les tracts qu'on a écrits, on les a proposés en AG. C'était voté. Toutes les actions, les manifestations qui étaient préparées en amont étaient portées devant l'AG qui décidait s'ils acceptaient ou pas. Quoi. Il y avait quand même, et là, on pouvait quand même échanger par moment sur certaines choses, l'actualité, d'où les débordements d'AG, des fois en fonction de l'actualité qui durait 3-4 heures.
Où ça refait le monde
oui.
Sans s'arrêter. Et à l'heure actuelle, l'AG, si on veut y venir, comment on peut y venir? Est-ce qu'il faut un gilet jaune? Comment ça se passe? Où est-ce que ça se déroule? Qu'est-ce qu'on peut en dire à l'heure actuelle?
C'est des AG. Alors, pour l'instant, les AG, maintenant, ont lieu le lundi. On les a déplacés le lundi parce que comme ça nous fait un groupe de travail et une assemblée générale ensemble. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de réunions. Et c'est vrai que pendant 7 mois, les gens qui travaillaient, ils avaient 2 réunions par semaine, plus le samedi, mobilisation, etc. Ça prenait énormément de temps, énormément d'énergie. Donc maintenant, les AG ont lieu le lundi. Et c'était quoi l'autre question?
Où est-ce qu'ont lieu ces AG si on souhaite
Généralement, il suffit de nous contacter en MP, puis on donne le lieu où se tient l'assemblée en ce moment.
En MP,
c'est
en
message
dire...
privé sur la page Facebook Gilets jaunes. Gilets jaunes, ou alors il suffit d'écrire sur tout Gilets jaunes Poitiers, tout attaché, toutanota.com. Pour nous contacter, généralement les infos sont balancées comme
Poitiers. Ça. Et les gilets, donc l'AG est ouverte à tous, elle est ouverte à tout le monde. Hein.
Okay.
Et il n'y a pas besoin d'avoir un gilet jaune, on n'est pas en gilet jaune quand on est en AG, de toute façon, on ne le met pas. Et puis il y a des gens dans les manifs, ou même avec nous, qui ne portent pas le gilet jaune, hein. Voilà.
Donc voilà, pour les gens qui souhaiteraient continuer ou rejoindre.
Ouverte, on a accueilli, par exemple, au sein de l'Assemblée, des profs avec qui on était allé discuter lors de l'une de leurs assemblées générales. Et justement, et c'est suite à une assemblée générale, à l'intervention de Gilets jaunes à leur assemblée, qui sont venus à la nôtre et qu'on a pu commencer à discuter sur ce qu'on pouvait faire ensemble.
OK. Donc on va faire une petite pause musicale puisque le temps passe, avant de passer à la troisième partie, à savoir sur l'avenir de un petit peu du mouvement à Poitiers. Là on va s'écouter une chanson qu'on n'avait pas pu passer sur l'émission sur Rosa Luxembourg et le conseillisme. Donc on va s'écouter The Maximilians, The Letter of Rosa Luxembourg.
Sure.